vous êtes intéressé par les jeux vidéo et le développement, montez le son de votre poste de radio. Des chercheurs de Rennes 2 et Toxicode mettent en place WeCode. WeCode, qu'est-ce que c'est? WeCode, ce sont des ateliers pour apprendre le code. Pour nous en parler, nous accueillons Séverine Herrel, enseignante-chercheuse à Rennes 2. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Alors Séverine, ma première question du coup sera, est-ce qu'il faut avoir un minimum de connaissances en informatique pour participer à ces ateliers?
Alors ces ateliers en fait ne sont pas réservés aux personnes qui maîtrisent le code, au contraire c'est très ouvert. Donc c'est pas en fait un événement qui est organisé que pour les geeks en informatique, c'est un événement qui est organisé pour tous et toutes. Donc j'espère aussi qu'on y retrouvera des filles, parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir des filles qui ont envie de coder. Et donc il n'y a besoin d'aucune base en matière d'informatique, vous venez avec votre PC, vous n'êtes même pas obligé de venir avec votre PC d'ailleurs, parce que normalement on aura des machines, mais vous venez avec l'envie d'apprendre et normalement vous repartirez avec votre niveau de jeu vidéo en hack and slash.
D'accord, ok. Est-ce que vous dites que c'est une expérience ludique et créative? Concrètement, en fait, comment ça va se passer?
Alors, donc, les ateliers vont se dérouler en deux temps. Donc, il y aura une première phase d'entraînement ludique au code. Vous allez, en fait, apprendre les bases. Et ensuite, on passera, en fait, à un environnement également ludique où vous allez devoir créer votre niveau de jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à la base, vous aurez un plateau. Vous allez avoir accès à des monstres, un petit personnage. Et après, vous êtes libre de construire les choses comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, créer des labyrinthes, faire des plateformes de télétransportation. Enfin, tout est ouvert. À partir du moment où vous utilisez les éléments de code qu'on vous aura appris dès le début, eh ben, vous pourrez construire votre propre niveau. Vous partez vraiment presque from scratch, puisque c'est quand même un petit peu bordé. Que ce soit quand même un peu simple pour les gens qui ne maîtrisent pas. Mais après, libre à vous, faites utiliser votre créativité pour pouvoir en fait faire quelque chose qui soit sympa, amusant et auquel vous auriez envie de jouer ou de faire jouer en fait vos amis.
Et durant ces ateliers, du coup, on sera accompagné par des personnes professionnelles?
Alors, dans le cadre des ateliers, en fait, on est une équipe. Donc, on a donc deux chercheurs. Donc, il y a moi-même, Séverine Herrel, et puis aussi Maude Besançon, qui va venir superviser le travail et justement analyser les aspects apprentissage. Et donc, les ateliers de code seront animés par une personne de Toxicode qui s'appelle Alexandre Amigouette et qui, lui, en fait, a l'habitude de mettre en place les ateliers. Et donc, il va nous faire, en fait, toute l'animation et mettre en place les tâches les unes après les autres.
D'accord. Donc, WeCode est organisé dans le cadre d'une recherche scientifique sur le code. Quel est l'objectif, en fait, de ces ateliers? Quelles données, en fait, vous cherchez à recueillir?
Alors, les objectifs des ateliers, ils sont doubles. Il y a effectivement cet aspect scientifique, puisqu'on est des chercheurs. Donc, notre métier, c'est d'essayer de comprendre comment les individus apprennent. Moi, notamment, c'est comment les individus apprennent dans des contextes ludiques. Et donc, effectivement, on va essayer d'analyser la manière dont vous apprenez et ce que vous avez réussi à apprendre grâce à cet événement-là. Il y a un deuxième aspect, en fait, dans Toxicode qui nous tient à cœur également, pas à code. C'est le côté capacitant. C'est-à-dire, pour nous, on met en place ces ateliers, il y a effectivement un cadre recherche. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, on a des étudiants à Rennes 2, on a des gens qui ont des capacités et qui parfois pensent que, parce qu'ils n'ont pas de formation directement informatique, ils ne sont pas capables de le faire. Et nous, en fait, ce qu'on voudrait aussi apporter comme message, c'est que vous êtes capable, vous aussi, étudiants de Rennes 2, de vous mettre au code. Vous pouvez faire des choses rigolotes, intéressantes, ludiques, créatives, avec nos ateliers. Donc c'est vraiment l'idée de se dire tout le monde est capable en fait de s'y mettre et c'est pour ça qu'on dit clairement ce n'est pas réservé aux geeks, c'est réservé à tout le monde, aux garçons comme aux filles.
Quelles sont les compétences justement qu'on acquiert grâce à ces ateliers? Donc il y a le code bien sûr, il y a aussi de l'écriture scénaristique.
Alors pour nous en fait c'est une expérience qui est complètement ludique et créative, donc c'est plutôt un travail sur le développement de la créativité, hein. Après, en termes de compétences, vous allez travailler avec du code qui s'appelle du Java. Et donc, vous allez normalement, à l'issue des ateliers, avoir quelques bases en mode Java. Vous pourrez éventuellement les réappliquer si vous voulez continuer en fait, à coder.
Donc, question un petit peu bête, mais du coup, on peut apprendre grâce aux jeux vidéo, en fait.
Mais carrément, on apprend notre cerveau. Alors, j'ai fait quelques communications là-dessus. Notre cerveau, en fait, les jeux vidéo développent notre système cognitif, donc nos compétences cognitives. Donc il faut savoir que souvent on dit les jeux vidéo rendent-ils intelligents ou rendent-ils bêtes? C'est la mauvaise question à se poser. C'est plus les jeux vidéo, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, vont développer certains aspects de nos compétences cognitives, par exemple les compétences en rotation spatiale avec Tetris ou des compétences en attention avec Mario. Voilà, les jeux vidéo en fait peuvent nous faire apprendre, peuvent modifier notre cerveau. Et donc, en fait, ici, c'est de se dire le jeu vidéo, enfin, le jeu, en l'occurrence Toxicode, va nous permettre à la fois de développer, d'apprendre de nouvelles compétences en termes de raisonnement, et puis aussi, normalement, devrait amener à plus de motivation, en fait, intrinsèque à l'apprentissage du code.
Donc c'est un peu de la gamification. La gamification, du coup, c'est l'apprentissage par le ludique. C'est un peu ça que vous faites. Et est-ce que c'est un peu l'avenir également de l'éducation, de l'enseignement ?
Bah moi, j'aimerais bien, en fait, parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'à l'heure actuelle, on apprend un peu de manière formelle, comme des raisonnements mathématiques. C'est une grosse question aujourd'hui dans l'éducation nationale. C'est comment on peut développer, par exemple, les compétences en mathématiques des enfants. Et en ce moment, des grands chercheurs tels Stanislas Dehaene commencent à dire, mais en fait, il faut apporter du ludique dans l'éducation et notamment au niveau des mathématiques pour donner le goût, l'envie aux enfants en fait, d'apprendre et qu'ils se rendent compte qu'au-delà des stéréotypes qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire par exemple le fait de se dire « ouais, moi je suis nul en maths et j'y arriverai jamais », et bien en fait, s'ils sont dans un contexte ludique, ils peuvent apprendre, ils sont capables d'apprendre, tout le monde est capable d'apprendre.
Est-ce que vous pensez que les serious games ou les jeux interactifs vont se développer et du coup devenir une généralité dans les méthodes d'enseignement ? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ça va devenir un peu une norme ?
Alors, je pense qu'on n'en est pas encore là. Pourquoi ? Parce que le développement d'un serious game, en fait, ça représente un coût. Et l'entretien du serious game, c'est-à-dire continuer à, par exemple, à le mettre à niveau, etc., ça demande un coût quand même assez important. Donc, je ne le vois pas forcément arriver dans les écoles primaires, etc. Par contre, sur certaines activités, je vois qu'il y a des serious games qui sont mis en place en gestion pour apprendre à comment gérer une entreprise. Il y a des serious games qui sont développés autour de l'apprentissage dans le domaine de la santé. Donc dans des cadres un peu plus spécifiques, on voit ça notamment dans les études supérieures, ces serious games, ils peuvent avoir des gains importants en termes à la fois de transfert de compétences et également de motivation.
Vous l'avez dit plusieurs fois, vous avez une volonté de casser les stéréotypes, et notamment au niveau du genre aussi. Vous l'avez dit, invitation à ramener des femmes un peu dans ce domaine-là, oui. Parce que c'est assez masculin.
Bah, malheureusement, le monde du jeu vidéo est assez masculin. Il y a des filles, on voit quand même des filles sur Twitch, par exemple, qui font leurs propres émissions, mais ça reste quand même un monde assez masculin. Dans le cadre du code, il y a aussi, je pense, la menace du stéréotype qui intervient, donc un phénomène où les filles vont aller se censurer et lors de l'apprentissage, en fait, par exemple, des mathématiques. Donc, il y a plein d'études qui démontrent ça, qui montrent que quand on dit aux filles c'est un truc de géographie et qu'on leur demande de faire, en fait, des calculs, elles y arrivent très bien. Et dès qu'on leur dit que c'est des activités de mathématiques, bizarrement, les performances s'effondrent. Donc, l'idée, vraiment, qu'on veut, nous, poursuivre, c'est de se dire le code, c'est pas qu'un truc de garçon, c'est pas qu'un truc de geek, c'est un truc qui peut être ouvert et c'est un truc que tout le monde peut faire. Et je pense que ces ressorts, en fait, ludiques, peuvent justement, d'une certaine manière, ôter cette menace du stéréotype chez les filles. Elles peuvent se dire, bah, moi aussi, je peux très bien aller m'amuser autant qu'un garçon et je peux aussi m'y mettre et passer un bon moment ensemble, ludique et créatif.
Vous avez déjà beaucoup de personnes qui participent à ces ateliers ?
Alors, pour l'instant, on a ouvert 60 places pour nos ateliers, donc répartis sur 3 ateliers, 3 fois 20, donc un le 22 novembre, un le 29 novembre et un le 6 décembre. Pour l'instant, on a 45 inscrits, on cherche encore 15 inscrits en fait, donc si vos auditeurs ont envie de s'inscrire, bah, qu'ils n'hésitent pas à me contacter ou à taper en fait WeCode Rennes 2 sur Facebook en cherchant en fait dans la liste des groupes et vous le retrouverez facilement.
C'est bien noté. Est-ce qu'il y a encore d'autres événements durant l'année semblables à WeCode ?
Alors, il y a la Code Week qui intervient normalement fin octobre. Et c'est vrai que nous, on arrive un petit peu en retard, mais c'est juste le hasard des rencontres. Déjà, c'est tellement bien de se dire, on rencontre des personnes de Toxicode, ils ont envie de faire des choses à l'université Rennes 2, ils viennent, nous amènent, ils nous proposent un intervenant qui nous fait tous les ateliers gratuitement et qui a vraiment envie de travailler avec nous. Déjà, on trouve ça génial. Donc après, au niveau des interventions, enfin, au niveau des événements, si on s'était rencontrés un petit peu plus tôt, on se serait mis en fait dans la Code Week. Donc il y a un événement français autour du code et on retrouve en fait plein d'actions dans différentes écoles autour du code. Cette année, ça fonctionne bien, j'espère que l'année prochaine, pardon, on pourra en fait se retrouver dans la Code Week et étant marqué comme un événement vraiment Code Week. Là, pour l'instant, on a un petit événement un peu indépendant, mais notre objectif, c'est de rejoindre la Code Week, ce serait quand même super bien.
On vous le souhaite. Merci Séverine. Du coup, les ateliers WeCode, c'est le 22 novembre, le 29 novembre et le 6 décembre pour vous inscrire, du coup. comme l'a dit Séverine, rendez-vous sur le groupe Facebook Webcode. Merci beaucoup.
Merci.
Syllabe. La radio sauvage. La radio sauvage.
Et maintenant, partons à la rencontre de Yann-Marie Normand, un soldat de la Première Guerre mondiale dont les poèmes écrits en breton ont été rassemblés et traduits pour la publication par Jean Normand, Yvonne Martin et Joseph Martin.
Donc, je m'appelle Joseph Martin et Normand par le nom de ma mère. Et là, je suis actuellement doctorant en deuxième année en littérature bretonne à l'université de Rennes 2. Et je travaille donc sur un poète écrivain breton, donc Yann-Marie Normand, qui a publié et écrit ses poèmes pendant la guerre, la Grande Guerre. Ses poèmes écrits au front étaient publiés une dizaine de jours après dans la seule revue hebdomadaire bretonne qui paraissait pendant la guerre, qui était donc Croix à Vétonnette, une revue catholique attachée au journal La Croix, qui existe toujours. Et donc mon sujet de thèse, donc, c'est Yann-Marie Normand, soldat breton pendant la Grande Guerre. Donc pour la jeunesse de l'histoire, en fait, dès que j'étais à la retraite, hein, puisque je suis plus tout jeune, donc en 2013, je m'étais promis de reprendre des études en breton, enfin de breton, puisque avant de partir à l'école, je faisais partie de ceux qui ne savaient pas le français, quoi. Et après, j'avais un peu oublié tout ça. Et donc, je me suis retrouvé ici à Rennes, donc à suivre les cours du diplôme d'études celtiques en 2013-2014. Et ensuite, j'ai embrayé sur la licence de breton, le master et le doctorat. Et Jean Normand, donc, qui était conseiller municipal de Rennes et pendant 31 ans avec M. Edmond Hervé, qui s'est occupé du métro d'ailleurs, a repris lui aussi les études du diplôme d'études celtiques. Et il a fait, dans les trois mémoires qu'on lui demandait, un mémoire sur les poèmes de Yann-Marie Normand, parce que 25 ans avant, la bibliothécaire de ce qui était la bibliothèque municipale de Rennes, n'est-ce pas, qui s'appelle les Champs Libres maintenant, avait découvert un manuscrit écrit par Yann-Marie Normand. Et donc Madame Pouillasse avait demandé à Jean Normand s'il connaissait ce Yann-Marie Normand. Et donc Jean Normand a dit que Yann-Marie était le frère de son grand-père. Donc, pour moi, le Yann-Marie, c'est le cousin de ma grand-mère.
Voilà. D'accord, ok, donc ouais, vraiment une histoire de famille.
Oui, alors c'est plus que ça, parce que Jean Normand et moi, donc la particularité, c'est que mon grand-père est le frère de sa grand-mère.
Ouh là là, j'espère que nos auditeurs vont se retrouver, donc, vous écouterez bien.
À votre question de... Bon, alors ceci dit, c'est quelqu'un qui est né à Guiclan, moi aussi, donc il utilise la langue du Léon, en plus du village où je suis, donc ça avait aussi un intérêt certain donc, par rapport à mon projet personnel qui était d'approfondir la langue bretonne, quoi. Voilà.
Et du coup, vous l'avez fait avec ce recueil de poèmes. Combien de temps ça a pris, du coup, pour traduire du breton en français ces poèmes ?
Alors, justement, donc, ça a été l'objet de le mémoire de master, de la publication de ce livre, parce que ça n'a échappé à personne qu'on fête le centenaire de la fin de la guerre 14-18. Et donc, s'il y avait un moment où il était important de le publier, où les gens étaient réceptifs aussi à ce genre de... Je dirais de
témoignages.
De témoignages. Et c'était bien en ce moment-là. En ce moment-ci, quoi. Voilà. Donc, alors, pour traduire, on s'est réunis donc, tout au long d'une année, quoi. Mais on a divisé les poèmes en quatre parties, quoi. Et donc, on s'est mis d'accord pour une traduction qui soit assez proche de l'original, mais pas toujours, quoi. Et donc, on était à trois, Jean Normand, ma femme, puisqu'elle avait passé sa licence de breton en 1983, n'est-ce pas ? Donc, elle était compétente, et moi-même, quoi. Donc, pendant la guerre, les Bretons, quand ils sont en civil, n'est-ce pas, certains gardent leur habit traditionnel, Et beaucoup de Français et de faux Bretons trouvent cette façon de s'habiller étrange. Et quand ils voient un pauvre paysan, ils le brocardent par ces mots « plouc plouc ». Alors Jean de Vary dit quand même que « avec la guerre, nous sommes mélangés, mais les mauvaises habitudes perdurent. Si nous sommes tous vêtus de bleu, nous ne parlons pas tous la même langue ». Et alors, c'est là qu'intervient une sorte de racisme linguistique qu'on appelle aujourd'hui la glottophobie. Regarde, ils mangent de la paille, se moquent les Français. Avec le plus grand mépris, ils crient « plouc plouc, ferme ton clapet ». Et Jan de Vary, lui, considère que qu'il soit français ou breton, chaque soldat fait son devoir sur la Marne, sur la Somme et sur l'Isère, quoi. Le fait de parler le breton ou le français n'enlève en rien la capacité des soldats à défendre le pays. Dans sa façon de vivre, il tient à la langue bretonne, hein, puisque c'est celle qui est pratiquée chez lui. Et il va trouver justement dans son identité bretonne, puisque là, on lui dit d'une manière négative, mais on lui dit quand même « tu es breton ». Donc, et peut-être aussi d'autres... soldats bretons qui n'en avaient pas conscience en prennent conscience tout d'un coup. L'identité est dite d'une manière négative, mais elle est affirmée par d'autres personnes, quoi. C'est un petit peu ce qu'on dit encore aujourd'hui, lorsque les gens émigrent, quittent la Bretagne pour trouver du travail, ils ne se sentent jamais aussi bretons que lorsqu'ils ont quitté la Bretagne, quoi.
Donc, tout à fait, je connais aussi ce
sentiment-là, quoi. Alors c'est le... Bon, là, on sait aussi que la République française, n'est-ce pas, prône depuis la Révolution, n'est-ce pas, l'unification de la langue, n'est-ce pas, qu'il n'y a qu'une seule langue officielle. Et c'est un petit peu à partir de ce principe, n'est-ce pas, que certains s'autorisent à mépriser ceux qui, justement, ne parlent pas le français, quoi. Alors, dans le cas de Jan de Vary, il avait suivi des études jusqu'en seconde, quoi. Donc, il était bilingue, hein, puisqu'il avait été à l'école laïque, mais il avait suivi le catéchisme et enseigné en breton. Donc, il était capable de lire et écrire, aussi bien en français qu'en breton. Et donc, ensuite, comme il était assez bon pour les études, donc il s'est retrouvé au petit séminaire de Saint-Paul-de-Léon jusqu'à la classe de seconde. Et là, il a appris le latin et le grec et l'anglais, quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que pendant la guerre, comme il était sous-officier, hein, il était maréchal des logis. Pendant son service militaire en 1907-1909, il avait été sélectionné pour aller à l'école des sous-officiers à Paris, quoi. Donc, et pendant la guerre, donc, il va rencontrer dans la Somme, n'est-ce pas, les Anglais, quoi. Et en plus de ses écrits, ses poèmes, il nous a laissé aussi deux carnets, quoi. Un carnet, on va dire, de souvenirs, et un carnet quotidien, dans lequel il indique, eh bien, j'ai rencontré des officiers anglais ou des hommes de troupes anglais, et j'ai parlé avec eux, quoi. Donc c'est un lettré, un intellectuel, même si il a quitté à 17 ans le petit séminaire pour apprendre, comme il dit, son métier de cultivateur, quoi. Et au début de la guerre, il était paysan. Ça faisait déjà une dizaine d'années, puisqu'il avait 28 ans au début de la guerre, qu'il apprenait, comme il dit, son métier de laboureur. Mais il avait quand même cette capacité intellectuelle de rebondir à travers ses poèmes, dans lequel donc, il va manifester sa volonté, quoi, de défendre la culture bretonne et la langue, quoi. Et donc, dans son poème « La plume », il fait dire à cette plume « Eh bien, quand tu écris le français, tu es en train d'envoyer la langue bretonne dans la tombe. »
Il a survécu à la guerre. Il a survécu à la Grande Guerre.
Survécu, oui. Il a survécu, donc... ils étaient dans la famille, il y avait 9 cousins, hein, dont mon grand-père, n'est-ce pas, qui lui n'a pas survécu, quoi. Alors je dois dire aussi que mon autre grand-père n'a pas survécu non plus à la guerre de 14-18. Donc ceci explique peut-être cela, que je m'intéresse à cette période de l'histoire, quoi. Cela a eu des conséquences sociales très importantes, hein, puisque les femmes n'avaient pas le droit de signature, hein, elles n'avaient pas l'autorité paternelle. Enfin, faut, les femmes n'auront en 1944 le droit de voter et ouais. En 48, je crois, ils n'ont pu le faire. Donc c'est pour dire que la condition de la femme n'était pas brillante. Par contre, Guillaume-Marie, lui, il écrit 5 ou 6 poèmes sur les femmes. Hein. C'est donc quelqu'un qui a 28 ans, qui songe à se marier, mais qui ne le fera qu'après la guerre, en 1921. Quoi. Donc pour lui, il va, dans ses poèmes, montrer l'évolution de la place des femmes qui prennent la place des hommes.
On parle de la femme bretonne.
La femme bretonne, qui prend, ou de la femme en général aussi, hein, qui prend la place des hommes pendant la Grande Guerre. Quoi. Il va écrire en 2 ans, enfin plutôt 1 année, donc après le début de la guerre. En effet, la première année, il est officier, n'est-ce pas, artilleur, et on lui demande de démonter les canons des côtes de la baie de Brest. Et il va démonter les 4 canons du fort Bertome. Alors aujourd'hui, il y a 4 trous béants et visiblement... On ne sait plus trop où ils sont passés. Eh bien si, là, on sait où ils sont passés. Ils ont été démontés et remontés, n'est-ce pas, à Vannes. Et il arrive donc en août de 1915 pour ce qu'on appelle la bataille de Champagne, qui va démarrer en septembre 1915, donc à Saint-Hilaire, tout près du camp de Mourmelon, en Champagne. Et donc... Là, il est arrivé au front, c'est la guerre, et là, aussitôt, il écrit son carnet quotidien. Et c'est à partir de là qu'on sait ce qu'il ressent. Quoi. Alors, quand il arrive au front, ben, il est dans... on fait la guerre aux Allemands pour défendre le droit, la civilisation, il est prêt à faire le sacrifice de sa vie pour défendre cette civilisation et sa patrie. Quoi. Et donc, il utilise le mot sacrifice. Et puis, quelques temps après, on va dire un an après, le sacrifice se transforme en devoir. Quoi. Le mot sacrifice, comme c'est un journal catholique, n'est-ce pas, et il y a des poèmes qui sont des prières réservées, on va dire, au côté religieux. Mais il quitte le champ de la défense de la patrie, et là, il parle de devoir. Quoi. Alors, après, un peu plus loin, il parle de « les régiments ont fait plus que leur devoir ». Et dans des poèmes où il parle de la mort des soldats, il parle de mort perfide, alors qu'au début, on allait à une mort glorieuse pour cueillir des lauriers. Quoi. Donc il y a cette évolution donc, du sacrifice vers le devoir, et un devoir qui est mesuré, parce que visiblement, on en fait trop. Quoi. Donc il y a cette évolution de la prise de conscience donc de la tuerie de la guerre, hein, qui, on ne sait plus trop pourquoi on l'a fait d'ailleurs. Et à la fin, donc, ça va, ces devoirs que le soldat a pour la patrie, eh bien la patrie a aussi des devoirs pour le soldat. Et pour lui qui voit tous ces soldats bretons et ces bretonnants qui meurent, ces poètes, hein, un certain nombre sont décédés, donc Jan Berkalor et d'autres encore. Et donc il dit, pour que cette victoire des morts, hein, c'est même plus la victoire des vivants, pour que cette victoire des morts ait un sens, au moins pour la Bretagne, il dit d'ailleurs le mot député, quoi, les députés votent des lois pour défendre et la culture bretonne et la langue. Parce que pour lui, sinon, ça n'a pas de sens. Quoi. On a demandé des sacrifices aux Bretons, beaucoup sont morts, et il pense que ça va être une grande perte pour la langue bretonne, et l'histoire lui a donné raison. Hein. En plus des poèmes, donc, on a des lettres qu'il a échangées avec la revue Croix Savée Honnête, et donc ces deux carnets écrits en français, un de... carnet de guerre où il raconte au jour le jour ce qui se passe et un carnet de souvenirs où il donne ses impressions. Quoi.
Est-ce qu'il y en a un que vous souhaitez nous lire?
Alors, dans les poèmes, donc, il va faire un poème non seulement sur la guerre et donc toutes les choses horribles qui se passent, mais il va aussi parler de la vie au front, des loisirs, des soldats, donc les métiers nouveaux. Hein, mais il va parler des prisonniers. Hein, donc c'est cette complainte des prisonniers que je veux lire. Et pourquoi est-ce que cette complainte me plaît? Tout simplement parce que elle est peut-être d'actualité encore aujourd'hui. On sait qu'il y a des camps de prisonniers, à ceux qui ont dû quitter leur pays parce qu'il y avait des combats et qui sont aujourd'hui, on va dire, parqués dans ces camps. Alors, pour lui donner son sens actuel, donc j'ai enlevé les quelques vers qui faisaient allusion aux Allemands. Et donc, voilà ce que ça donne. Au terme d'un rude combat, vous avez été fait prisonnier. Beaucoup d'autres sont morts. Maintenant, loin des vôtres, en pays étranger, vous êtes retenus par milliers. Rassemblés dans un champ, on vous expose sans ménagement, comme les animaux sauvages enfermés dans une cage. Derrière un grillage inutile, vous êtes rejetés. N'entendez-vous pas un cri plein d'angoisse venant des quatre coins du monde? Écoutez ce que demandent vos frères malheureux. Pour eux, faites des dons. Écrit le 8 décembre 1918 à Sommesoux dans la Marne.
Merci à Joseph Martin. Le livre sera présenté le jeudi 22 novembre à 18h au Tambour, au campus de Villejean.
On se retrouve juste après une pause musicale pour le Memento.